Kant définissait la société actuelle comme une société sans père, ni repère. Et ce n'est pas un scoop si je vous dis qu'il y a effectivement de plus en plus aujourd'hui des menaces qui pèsent sur les familles. De nouvelles lois hyperlibérales ont été votées ces dernières années. Ceux qui nous gouvernent et font l'opinion semblent vouloir obliger tous les citoyens à adopter leur vue sur le mariage et la famille, ou à se taire. Jamais, me semble-t-il, et c'est toujours Samuel qui parle, les enfants et les jeunes n'ont été aussi déboussolés, confus, réclamant des pères et des repères. Je crois que l'une des chansons qui exprime le mieux ce désarroi des enfants et des jeunes est celle de Stromae. Papa Outé. À plusieurs reprises, Stromae répète dans sa chanson « Outé, papa Outé ». Outé, papa Outé, Outé, papa Outé. Et dans l'une des strophes de sa chanson, il évoque quelque chose de pertinent. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous, tiens. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Alors, si la chose peut nous faire sourire, ce n'est pas si stupide que ça. J'ai vu à la télé, il y a quelques semaines, des pères prendre des cours de papa pour savoir comment s'occuper d'un bébé et participer à la gestion de la vie de famille. Ce qui s'est fait pendant des millénaires de manière tout à fait naturelle, il faut maintenant l'apprendre. Quoique. Est-ce que les pères ont vraiment participé à la dure tâche d'élever des enfants? Pas si sûr, pour ne pas dire sûr du contraire. La société étant patriarcale, elle a oublié que cette tâche n'était pas réservée qu'aux seules mères. Et il est de bonne intelligence que les pères s'y mettent aussi. Et il est vrai que beaucoup se sentent maladroits, et c'est peut-être la raison que certains se sentent déficients, fuyant ainsi leurs responsabilités, ou ont peur de ne pas savoir faire et donc prennent des cours. Alors on arrive à la dernière prédication sur le sujet de la famille, et il est difficile, après tous les autres, de ne pas être redondant. Surtout quand on a préparé ce message bien avant d'entendre les autres. Mais je dirais comme l'apôtre Paul dans Philippiens, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, ce qui sera pour vous salutaire. Donc faites des pères. Alors non, il n'y a pas de faute d'orthographe dans le libellé. C'est un jeu de mots sur comment faire pour que les hommes chrétiens soient des pères au sens biblique du terme. Car ce n'est pas si évident que cela. Le plus souvent d'ailleurs, cela se fait sur le tas, au fur et à mesure de la vie de parents. Et cela va aussi bien pour les mères. Y a-t-il des conseils qui seraient profitables pour éviter les erreurs, les manquements? Ou doit-on laisser faire la nature nous façonner les pères? Il n'y a pas en effet de normes coulées dans le béton, immuables, intemporelles. La culture, les pays, les époques, les us et coutumes sont aussi diverses que les avis sur la question. Je n'ai donc pas la prétention de dire la vérité non discutable. Je dirai néanmoins mon sentiment et mon appréciation en ce qui concerne la parole de Dieu. Je parlerai aussi par expérience en me rappelant humblement que je n'ai pas tout réussi et que je n'ai pas tout échoué. Que j'ai fait de mon mieux avec les circonstances de notre vie de parents. Cela ne nous a pas empêchés cependant de demander des conseils à un spécialiste en la matière de la mission Vie et Famille, Gérard Hoareau, qui est venu ici il y a quelque 30 ans. Donc, que personne ne trouve ombrage sur les conseils que je peux retracer ici. Ils nous ont été utiles, mais il est évident que d'autres parents et pères pourraient en rajouter, voire contester, rééquilibrer cet avis. Il y a cependant des erreurs manifestes à ne pas commettre, des attitudes de bonne pratique et la parole de Dieu en fourmille. Lisons Éphésiens 6. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est cela ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et l'Épître aux Colossiens précise de peur qu'ils ne se découragent. Quand j'ai su que j'allais préparer ce message, j'ai demandé à mes enfants de me dire en toute franchise de faire une rétrospective de ma vie de père, leurs sentiments, leurs appréciations, ce qu'ils auraient aimé trouver en moi et qui aurait fait défaut, ce qu'ils ont particulièrement apprécié, des conseils qui m'auraient été utiles avant que tout ne commence. On peut avoir de bons principes au début, sûr de ses convictions, sur la façon dont on doit élever les enfants et se rendre compte au fur et à mesure que ce n'est pas si simple que ça, et être obligé d'adapter nos convictions aux réalités incontournables du moment. Les enfants sont en effet un parfait exemple de gouvernement minoritaire. Quelqu'un a dit « Au début, j'avais 6 principes de base sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, j'ai 6 enfants et plus aucun principe. » Alors, laissons aussi l'humour de la vie nous montrer qu'il y a avant tout de la sagesse à acquérir tout autant qu'à en donner aux enfants. Un de mes fils a répondu à ma question par une blague de Gad Elmaleh. Ce qui m'a le plus frappé chez mon père, ce sont ses mains. C'était une boutade, bien sûr, enfin, j'espère. Il est vrai, et je l'avoue sans honte, mais parfois à regret, que j'ai donné quelques gifles et fessées à mes enfants quand ils étaient particulièrement désagréables. La Bible ne parle-t-elle pas de la correction? Voyez ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Alors il s'adresse à tous les chrétiens, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, et nous ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Cependant, ce n'est pas la fonction première des pères. En tout cas, ce n'est pas ce que l'enfant doit retenir de son père. Un enfant ne doit pas réciter le Notre Père en disant et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont tant fessés. L'éducation d'un enfant se fait avant tout par l'exemple. Et c'est ce que l'enfant va retenir, voire reproduire. Et cela commence dès sa naissance, car l'enfant est comme une éponge qui va absorber dès le début ce qui est le bien ou le mal qu'on lui fait. Je crois que le meilleur moyen pour un père de montrer qu'il aime ses enfants, c'est d'abord d'aimer leur mère. L'enfant y sera très sensible et heureux. Il en souffrira si ce n'est pas le cas. Pire, si la mère est humiliée, agressée ou battue comme une esclave, ou simplement oubliée comme si elle faisait partie du décor ou d'une plante d'agrément. J'ai remarqué que les enfants souriaient quand leurs parents s'embrassaient. Aldo Nauri, pédopsychiatre catholique, a dit « Un bon père est un homme qui parviendra sa vie durant à faire en sorte que la mère de ses enfants demeure amoureuse de lui. » Quand un père et une mère se séparent, je mesure ce que sera le prix à payer pour les enfants, ce que sera leur souffrance et combien elle sera difficile à gérer. Le père, tout comme la mère d'ailleurs, est amené à donner une bonne éducation à ses enfants. Ce pour leur apprendre à devenir adultes et responsables. Malheureusement, beaucoup de pères sont déficients, trop occupés, absents ou inattentionnés, reléguant cela à la mère, à l'école ou à la société. Quand ils sont chrétiens, la parole de Dieu les enjoint à apporter une éducation, je dirais chrétienne plutôt que religieuse. Poser les bases de la réflexion, leur apprendre l'exemple par le témoignage, ce que Christ a fait dans nos vies. Leur donner appétit, et ce n'est pas la moindre des choses. On se repose souvent sur l'enseignement de l'Église junior, ou l'Église tout court. Karl Marx a dit « Enseignez les enfants jusqu'à 3 ans, et après vous en faites ce que vous voulez. » En effet, il a été montré qu'un enfant acquiert 80% du savoir total avant l'âge de 5 ans. Or, cet âge-là se vit en famille. Voici ce qu'on dit les proverbes. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 22, 6, Samuel nous en a parlé la semaine dernière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et 2 Rois 17, leurs enfants et les enfants de leurs enfants font ce que leurs pères ont fait. Dans le psaume 78 d'Asaph, il est écrit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. » Enfin, l'apôtre Paul nous dit dans Thessaloniciens, « Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. » Pythagore, le mathématicien, disait « Éduquons les enfants et nous n'aurons plus besoin de punir les hommes. » Un autre de mes fils a répondu à ma question « Dans le cas d'un couple de parents où les deux bossent, en quoi le papa et la maman devraient se comporter différemment envers leurs enfants ?» À mon avis, en rien, et je suis d'accord avec lui. Les deux doivent apporter de la stabilité, et il a surligné, à leurs enfants, familiale, financière, spirituelle, de la présence, surlignés. Que ce soit pour jouer avec eux, être présent dans leur travail scolaire, de l'amour, surligné. De l'amour, évidemment, qu'ils jouent tous deux un rôle d'exemple, surligné, tout en aidant l'enfant à se développer par lui-même. Dans un week-end qu'on a passé ensemble à Pentecôte, c'était vraiment très très chouette, et à la fin du week-end, je leur ai dit ceci. J'ai été très touché par la qualité de ce week-end qu'on a passé ensemble, mais en regardant ce week-end, je me dis que j'ai un regret. C'est celui de ne pas avoir passé plus de temps avec chacun d'entre vous, pour jouer, pour discuter et pour vous écouter. En effet, peut-être les parents jouiraient-ils davantage de leurs enfants s'ils étaient conscients du fait que le film de l'enfance ne peut être passé deux fois. La meilleure dépense que nous puissions faire au profit de nos enfants, c'est notre temps. Émile Zola disait « L'enfant ne doit être ressenti ni comme un gêneur, ni comme un roi, mais comme un être à qui l'on fait sa juste place au foyer. » J'ai vécu personnellement une épreuve pénible avec mon père. J'avais l'âge de 12 ans à peu près, nous étions à table et comme tous les enfants, on discutait entre nous. Et mon père regardait la télévision, probablement les informations. Et à un moment donné, il s'est mis en colère, il a frappé du poing sur la table. « Ça suffit !» Là, j'ai compris que la télévision avait plus de place que les enfants dans la famille. Ça a jeté un froid. Et c'est pourquoi je déconseille aux familles de manger devant les informations, en tout cas tous les jours devant les informations avec les enfants. Il n'y a plus d'échange. L'enfant doit être respecté dans son intimité aussi, donc surtout à l'adolescence. Ne pas lire ses lettres, ne pas lire son journal intime à son insu, ne pas rentrer dans la salle de bain quand il se douche. Être des parents qui aiment et disent la vérité à leurs enfants. Et là, je pense particulièrement à la période de Noël. Que l'enfant sache qu'il peut faire confiance à ses parents et même se confier. L'aimer, quelle que soit sa conduite, même si nous réprouvons sa conduite. Ne pas traiter avec désinvolture toute question, toute inquiétude, toute remarque. L'enfant a besoin d'être écouté. Samuel a dit la semaine dernière, il faut savoir reconnaître ses torts et demander pardon. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Apprendre aussi à l'enfant la satisfaction différée, à réprimer ses envies immédiates qui entraînent une frustration, certes, mais qui permet d'acquérir la maîtrise de soi, en particulier dans la découverte de la sexualité. À l'adolescence, c'est une chose très difficile pour des parents de prendre le risque de la confiance et de miser dessus. C'est l'âge qu'on appelle ingrat, l'âge où le jeune commence à se demander par quel miracle des parents aussi stupides ont engendré un enfant aussi intelligent. Un autre de mes fils a répondu que peut-être, à l'adolescence, j'avais manqué de confiance en lui. Risque il y a en effet, parce qu'on ne peut jamais garantir que l'enfant, devenu autonome, ne fera pas ce que les parents redoutent, à savoir faire des bêtises, pire, des choses irréversibles, et s'éloigner de Dieu. Le père de l'enfant prodigue a été devant ce dilemme. Que faire de la demande de son fils? Lui refuser la part de bien, en sachant pertinemment qu'il allait les dilapider et les dépenser en débauche? User de son autorité de père, lui faire la morale, lui demander de faire autrement? Il aurait pu. Mais si son fils était resté par force à la maison, il n'aurait plus eu de relation de confiance entre eux, mais plutôt des conflits et de l'amertume. On le voit d'ailleurs avec le fils aîné. On ne peut plus agir avec un jeune comme on le fait avec un enfant. Il doit avoir sa marge de liberté, le droit de faire lui-même ses choix, de prendre ses responsabilités et assumer les conséquences de ses erreurs. Alors, l'autre solution que le père a préféré choisir était de le laisser partir vivre sa vie, faire ses expériences pour mieux le voir revenir. Mais il ne savait pas seulement s'il allait lui revenir. L'amour du père s'est manifesté dans l'abdication de son autorité au profit de sa confiance. C'est cette confiance qui a permis au fils, une fois rentré en lui-même, de pouvoir dire « J'irai vers mon père ». Parce qu'il savait que son père l'aimait. Quand un fils choisit une autre voie que celle qu'on lui a tracée, quand il décide de couper en tout point de vue le cordon ombilical, cela peut faire mal et donner beaucoup d'inquiétude. Mais il est un temps où il faut accepter de laisser nos jeunes vivre leur vie. Et si par bonheur, ils retiennent les leçons de nos expériences, les leçons qu'on leur a transmises, alors que Dieu en soit béni. Salomon disait dans les Proverbes, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Si la parabole avait été une histoire vraie, je ne douterais pas que le Père n'ait cessé de prier pour son Fils. C'est ce que nous demande Dieu. Non pas de vivre à la place de nos enfants, mais de leur donner les bases de leur propre choix et leur donner le sens des responsabilités. C'est ce qui se fera de l'enfant un être adulte. Pour cela, il faut le courage d'accepter de les voir grandir et se détacher peu à peu de nous. Un proverbe chinois dit « Vous ne pouvez donner que deux choses à vos enfants, des racines et des ailes. » Et si nous ne pouvons plus parler de Dieu à nos enfants, alors parlons à Dieu de nos enfants. C'est notre rôle dans la prière. Le Père a aussi pour tâche, comme la mère d'ailleurs, de leur montrer la voie de la sagesse, de la vie en société et du respect des lois. Cela passe aussi forcément par la correction des erreurs, voire des méfaits que l'enfant est enclin à provoquer par son comportement. Il a besoin de comprendre ce qui n'est pas inné et qui ne peut pas s'acquérir, sinon par les rectifications que le seul parent connaît. La correction est donc nécessaire et recommandé par la parole de Dieu. Et Dieu lui-même l'a appliqué à son peuple, on l'a vu tout à l'heure. Il est dit que nous étions tous égarés, dignes de jugement, et la colère de Dieu s'est exprimée. Sa main s'est levée pour nous frapper, et Jésus s'est interposé. Il est écrit dans Ésaïe 53, il a été frappé de Dieu, puni pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui a reçu la frappe volontairement. Dès lors, l'acte qui nous condamnait est tombé sur lui. Si vous êtes fils et fille de Dieu, c'est que vous méritiez la correction et Jésus vous a sauvé par grâce. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 3. Puis on finit par devenir grands-parents. Et là, la tentation est forte de se croire les parents de nos petits-enfants et de remplacer nos enfants dans leur éducation, ce qui peut créer des tensions et des conflits. Nous devons laisser nos enfants faire l'éducation des leurs. Nous n'avons pas à nous substituer. J'ai trouvé trop pénible des remarques désobligeantes et souvent teintée d'humour de mes parents sur la façon de faire. Tu devrais faire ceci. Tu pourrais faire cela. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Bourreau d'enfant était l'expression de mon père. Restons à notre place. Et si quelque chose nous cloche, c'est aux parents que nous devons nous adresser. Ne levons pas les interdits que nos enfants mettent à leurs enfants. C'est aussi ça, respecter nos enfants. Et c'est le meilleur moyen de garder avec eux de bonnes relations et de voir souvent nos petits-enfants qu'ils n'aient pas crainte ni réticence à nous les amener. Alors peut-être n'avez-vous jamais été père, ou même si vous l'avez été, quoi qu'il en soit, vous avez toujours la possibilité d'être un père spirituel. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Timothée, mon enfant légitime en la foi. » Et ensuite, aux Corinthiens, il dit, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, nous pouvons être des exemples et être des pères ou des mères spirituels. Alors, il y a sans doute beaucoup de choses encore à dire sur la question, mais il faut fermer la boucle pour permettre la réflexion. Pour terminer, je donnerai en conclusion cette parole de la chanson Millésime de Pascal Obispo, s'adressant à son fils. « Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné, je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père. » Amen.